Chapitre 3. Quant à Rémy, il poursuivait sa promenade nocturne, la prolongeant à dessein, car l'air était d'une exquise douceur, et le lac, sous les rayons obliques de la lune, était illuminé de longues traînées phosphorescentes. De petites lumières paisibles indiquaient les villages des deux rives. Le calme était si grand qu'on entendait le bruissement particulier des roseaux secs, dont il y avait des champs sur certains points de la grève. Rémy aurait cédé à la tentation de descendre au bord du lac et d'y oublier l'heure dans une longue rêverie s'il n'avait su que le portier de l'hôtel veillerait pour l'attendre. Il pressa donc le pas, mais au lieu du portier, ce fut le garçon hypochondriaque qu'il trouva dans le grand vestibule, faiblement éclairé par une petite flamme de gaz. À demi couché sur une banquette, il dormait la bouche ouverte et faisait quelques rêves palpitants, car ses bras s'agitaient. Et tout à coup, un son étrange qui ressemblait à un éclat de rire s'échappa de sa gorge. Il se réveilla en sursaut et se dressa sur ses pieds quand il vit Rémy devant lui. « Je rêvais que monsieur s'était noyé » s'écria-t-il. Ses yeux éblouis, qui papillotaient plus que jamais, et ses cheveux jaunes se dressant dans tous les sens, lui donnaient un air égaré. « Pourquoi m'avez-vous attendu ?» demanda Rémy. Le portier avait sommeil, je lui ai offert de prendre sa place. Monsieur me traite avec tant de bienveillance. Je ferai tout pour monsieur. Faites-moi donc le plaisir d'aller vous coucher, dit Rémy assez sèchement. Mais le garçon protesta. Son devoir lui commandait d'allumer les bougies dans la chambre de monsieur. Comme il montait l'escalier derrière Rémy, celui-ci se retourna deux ou trois fois. Il lui semblait qu'une main lui effleurait l'épaule et se retirait aussitôt. « Allez devant, » dit-il avec humeur, « vous avez vraiment des façons de maniaque. » Le garçon obéit sans protester. Il alluma les bougies, s'assura que les rideaux étaient bien fermés, tisonna le feu et souhaita le bonsoir à monsieur d'un air contrit. « Il me donne des remords, avec sa mine humble et ses airs de chien fouetté, » pensa Rémy. « Tenez, dit-il, prenez ce paquet de cigarettes et fumez-en deux ou trois pour éloigner les chauves-souris qui paraissent vous hanter. » Au lieu de tendre la main, le garçon resta immobile, comme changé en une pétrification de l'époque tertiaire. « Est-ce que monsieur ?» balbutia-t-il enfin d'une voix étranglée. « Je les chasse tant que je peux, mais elles reviennent. Elles me parlent, elles me donnent des conseils. » « Ce bateau, par exemple. Tout à l'heure, elle me soufflait de prendre le tisonnier. Si un malheur arrive, j'en serai innocent, je suis poussé, je n'ai pas une minute de trêve. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être pauvre, » poursuivit-il en se campant devant Rémy, les bras croisés. « Pourquoi ? Le monde est comme ça. Moi, je suis pauvre. » Et pour preuve, il retourna les deux poches de son pantalon, puis celle de son habit. Il aurait continué cette exhibition qui jonchait le tapis de miettes de pain si Rémy ne l'avait arrêté en lui saisissant le bras. « Mon ami, lui dit-il, ou bien vous jouez une comédie ridicule, ou bien vous êtes sous l'influence de quelque excitant. Allez dormir. »« Lâchez-moi, cria le garçon, vous n'avez pas le droit de me toucher. Je suis un homme, je suis votre semblable, je suis votre frère. Égalité, partage des biens, bonheur pour tous. » En même temps, il se débattait violemment sous l'étreinte de Rémy, qui le poussait peu à peu vers la porte. Mais soudain, son excitation tomba. Il se prit la tête à deux mains, ne bougea plus et fixa devant lui des yeux ahuris. Au bout d'un instant, il se redressa. Sa figure avait repris son expression ordinaire, qui consistait en n'en avoir aucune. « Monsieur rentre de bonne heure, » fit-il comme s'il venait d'apercevoir Rémy. « Monsieur s'est bien amusé. La société de l'Eau-Neuve est très respectable, demoiselle charmante, nombre de soirées pendant l'hiver. Malheureusement, la saison s'avance. » Rémy, stupéfait, le regarda fixement. Le garçon se prit le menton et parut réfléchir. « J'ai fait une scène à monsieur tout à l'heure. »« Un peu, » s'écria Rémy. « J'en demande mille pardons à monsieur. J'étais endormi en bas quand monsieur est entré. » « Oui, et vous vous êtes réveillé en sursaut. »« Monsieur se trompe. Je n'étais pas réveillé, ou du moins je l'étais imparfaitement. je suis toujours très long à reprendre l'usage de mes sens. Chaque matin, monsieur voudra à peine le croire, je me fais à moi-même des scènes épouvantables. Je me menace avec mon rasoir. C'est curieux, n'est-ce pas ? Très curieux et fort désagréable pour tout le monde. Si monsieur n'a plus rien à me commander, je lui souhaiterai le bonsoir. Bonsoir, tâchez d'avoir complètement repris vos sens quand vous m'apporterez à déjeuner. » Le garçon se retira. Rémy ferma sa porte à clé. C'était une précaution qu'il négligeait ordinairement, mais qui lui parut bonne à prendre contre les lubies du garçon somnambule. « Je me verrai obligé d'exposer le cas à M. Ripache, » se dit-il. « Ce pauvre diable a évidemment quelques ressorts détraqués. Il faut user de douceur à son égard, car le moindre choc pourrait rompre entièrement l'équilibre peu stable de sa raison. » Il enfila ses pantoufles qui chauffaient devant le feu, puis s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit. Les lumières de la ville tremblotaient dans le lointain, une ou deux s'éteignirent. « Chères âmes, bonne nuit, » murmura le jeune homme. « Mademoiselle des Anges veille encore pour songer à un mauvais garnement revenu des pays étranges et qu'elle se propose de ramener de gré ou de force dans les sentiers de la vertu qui ont commencé leur carrefour général à l'eau-neuve. Quant à Madame Vandeuvre, elle se jure sans doute qu'on ne l'y prendra plus. La tasse de thé qu'elle m'a servie ce soir sera la dernière. » J'ai battu en brèche sa stratégie, je me suis tenu dans une modeste pénombre, sans disputer à M. Colombe un seul de ses rayons. On saura maintenant que je me prête mal à devenir l'instrument de ces petites noirceurs de société. » Ce fut avec cette agréable conviction qu'il s'endormit. Il oubliait un axiome élémentaire qu'il aurait pu apprendre en Orient, ce pays de la diplomatie, c'est qu'il y a plus d'un chemin pour arriver au même but.
« Maman, maman, il croira que je l'ai fait exprès. »«
Qui donc, Monique ?»«
Monsieur d'Orbe, il croira que c'est à dessein que j'ai laissé tomber mon éventail. »«
Quelle folie !»«
Oh, maman, que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Je n'ai jamais été si mortifiée de ma vie. »
Monique Audel et sa mère avaient quitté d'assez bonne heure le salon de Madame Vandeuvre. Elles étaient revenues chez elles à pied et précédées, suivant la coutume de cette bonne petite ville, d'une servante portant une lanterne. La lanterne annonçait aux passants des dames de qualité auxquelles il convenait de laisser le haut du trottoir. Madame Audel avait la tête couverte d'un vaste capuchon de satin marron qui était allé en soirée aussi souvent qu'elle depuis son mariage. Monique avait jeté un fichu de dentelle noire sur ses cheveux et sur ses épaules un crêpe de laine turque aux rayures éclatantes. Personne dans la rue ne se retournait à cette apparition insolite, car il était généralement admis qu'on ne prenait pas de voiture pour entrer chez soi lorsque le temps était beau. Les dames de la société étrangère seule s'accordaient le luxe d'un coupé de louage ou de l'un de ces véhicules surannés qu'on retrouve dans les localités très conservatrices et qu'on appelle un char de côté. Quant aux Launevoises de bonne race, elles demeuraient fidèles aux traditions de simplicité que leur avaient transmises leurs aïeules, femmes alertes et bien portantes, qui savaient se servir de leurs jambes, comme de leur langue et de leurs 10 doigts. Pour cause de lune, les rues étaient éclairées plus parcimonieusement qu'à l'ordinaire. Les ombres semblaient très noires et découpaient en contours étranges le bord des toits, la silhouette des cheminées et des gouttières dans le fleuve de lumière blanche qui semblait couler silencieusement sur les pavés. Madame Audel habitait dans la ville haute, la maison de Mademoiselle des Anges. Une centaine de marches usées qui passaient sous l'ombre vénérable de la cathédrale y conduisaient les gens pressés d'arriver et doués de poumons robustes. M. Colombe préférait la rue des Acacias, arrivant au même but par un long détour et une pente douce qui lui épargnait des palpitations. Mademoiselle des Anges, au contraire, ne connaissait pas d'autre chemin pour sortir de chez elle que ses marches escarpées. En son honneur, le vieil escalier avait été surnommé l'échelle de Jacob parce que, disait-on, on y voyait constamment monter et descendre des anges. On y arrivait par une ruelle étroite, resserrée entre deux murs couverts de lierre, et l'on trouvait au sommet des marches une voûte surmontée d'un écusson presque effacé. C'étaient les armes de la famille des Anges. Une grille, précédant un second escalier, s'ouvrait au fond de la voûte. Rien de plus féodal et de moins rassurant que cette entrée d'une simple maison bourgeoise, bâtie dans le bon temps où l'on se barricadait également contre les ennemis, savoyards ou bourguignons, et contre les amis, ces excellents seigneurs des ligues. La lumière de la lune semblait blafarde et crue entre ces gros murs tout noirs, trop massifs pour qu'elle pût leur prêter quelque douceur. Monique et sa mère gravissaient les marches en silence, les comptant machinalement, tandis que leurs pensées étaient ailleurs. La petite lanterne dansait devant elle comme un feu follet. Tout à coup, elle s'arrêta. « Qu'y a-t-il, Marthe ?»« Rien, madame. Je me suis retournée pour voir le char vaporeux de la Reine des Ombres, comme dit Monsieur de Lamartine. J'aime beaucoup Monsieur de Lamartine, je le trouve très lunaire. » « Quand vous aurez fini de citer, peut-être aurez-vous l'obligeance d'ouvrir la grille. »« Tout de suite, prenez garde au seuil, madame. Il est terriblement poli, mais sa politesse pourrait bien nous faire casser le cou, » poursuivit Marthe en dirigeant la flamme de la lanterne sur le passage dangereux. « Moi, j'appelle ça de la politesse de croque-en-jambe. Il y a bien des gens faits de cette sorte, doux et unis, mais qui vous jettent par terre à la première bonne occasion. » « Mademoiselle des Anges devrait faire repiquer ce seuil. Je l'ai dit plus de 20 fois à sa bonne. »« Ah, vous m'étourdissez, Marthe !» fit Madame Odel, qui semblait sortir à regret de sa méditation. Monique n'avait pas ouvert la bouche pendant toute cette promenade à travers les rues somnolentes. Madame Odel, entrant un quart d'heure plus tard dans la chambre de Monique, la trouva accoudée sur sa table, la tête dans ses mains, et entendit ses exclamations.
« Maman, maman, il croira que je l'ai fait exprès !»«
Tu attaches beaucoup trop d'importance à un incident qui n'en a aucune. Monsieur Dorme doit savoir que dans notre monde, les jeunes filles n'ont pas coutume de provoquer l'attention des jeunes gens par de tels moyens. »«
Il s'en allait sans nous avoir été présentés. Il s'imaginera qu'en désespoir de cause, je lui ai jeté mon éventail pour le retenir. Oh, maman, maman, c'est abominable !» Et pour comble, cette inqualifiable maladresse. On n'a jamais, jamais rien vu d'aussi ridicule. »
Elle cacha de nouveau dans ses mains ses joues brûlantes. Madame Odel s'assit sur le petit divan bleu couvert d'une guipure que Monique avait brodée elle-même. « Sois donc raisonnable, » fit-elle au bout d'un instant. « Je comprends que cet incident t'ait mortifié, mais l'opinion de ce jeune homme ne saurait te toucher très vivement. » Quand tu le rencontreras de nouveau, montre-lui par ta froideur que tu ne tiens aucunement à cultiver sa connaissance. S'il s'est imaginé le contraire, il verra qu'il s'est mépris. Monique, ma chère fille, c'est d'un tout autre sujet que je voulais t'entretenir. Monsieur Colombe ?
Ah, qu'on ne me parle pas de Monsieur Colombe ! S'écria la jeune fille. S'il avait eu un grain de présence d'esprit ou de courtoisie, il aurait ramassé lui-même mon éventail et je n'aurais pas la honte de cette ridicule aventure. Mais, au lieu de comprendre la situation, au lieu de se baisser à temps, il restait là, pompeux, tout d'une pièce, comme une idole.
« Monique, tu t'oublies, » dit sa mère sévèrement. « Tâche de te calmer, va dormir. Demain, nous reprendrons notre conversation. » Elle lui donna un baiser assez froid et sortit. Monique ouvrit la fenêtre, puis revint à sa table de toilette, coquettement drapée de mousseline et couverte de bibelots. Son éventail y était posé à côté de ses gants. Elle le prit, l'ouvrit brusquement, puis le referma, paraissant indécise. Sa première impulsion avait été de le jeter de toute sa force par la fenêtre pour l'entendre se briser au pied des 100 marches que la croisée surplombait. Mais elle se détourna lentement de l'embrasure.
« Non, non, je ne saurais, » murmura-t-elle. « Après tout, c'est un souvenir. »